Deuxième partie de l'émission Il y a une vie après Normal, où nous interviewons Nicolas Demorand, l'icône de France Inter. Vous allez l'entendre tout de suite, Anne-Laure, la deuxième partie de l'interview.
Donc vous avez vraiment l'impression d'avoir basculé plutôt que d'y avoir une continuité entre la formation que vous aviez, entre l'enseignement et votre métier d'aujourd'hui?
Alors, la bascule, je peux la situer très précisément. En fait, ça a été une vie en parallèle pendant quelques années. Ensuite, ça a été de plus en plus de journalisme et j'ai totalement basculé le jour où Laure Adler m'a demandé de faire la matinale de France Culture. Et c'était donc en 2002. Et considérant ce qu'est le mode de vie du matinalier, se coucher tôt, se lever tôt, travailler toute la journée, il m'était absolument impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc là, j'ai fait, à partir de 2002, de la radio à plein temps, ce qui veut dire quand même 10 ans après être rentré à Normal Sup. Assez rapidement, par rapport au moment où je suis rentré à France Culture, c'était fin 97, début 98, donc 4 ans après, j'étais en situation de basculer. Et dans ces 4 années-là, j'avais fait énormément de presse écrite, énormément de radio, déjà un peu de télé. Et donc voilà quoi, il faut avancer, il faut faire des choses, accumuler du temps d'antenne, des mégaoctets, l'ordinateur existait déjà à l'époque, des mégas et des mégas d'articles, de papiers, etc. Et à un moment, vous êtes en situation de basculer.
Alors depuis la matinale de France Culture, ça ne s'est pas arrêté. Maintenant, vous êtes sur France Inter, qui est la radio la plus écoutée à 8h. Comment vous vous définiriez comme intervieweur ?
Alors, déjà, je ne suis pas ce qu'on appelle dans le métier un journaliste politique, c'est-à-dire un journaliste dépendant du service politique, un journaliste qui n'interviewe que des hommes et des femmes politiques. Moi, je me considère comme journaliste. Intervieweur. Donc ça a été l'une des choses que j'ai voulu installer dans la matinale de France Inter et que j'amenais en quelque sorte avec moi depuis France Culture, qui est d'ouvrir le profil des invités qui s'expriment le matin sur Inter. Donc là, la semaine dans laquelle on est une semaine très politique, mais c'est parce qu'il y a une élection. La politique a toute sa place. Et dans les médias, la radio le matin est l'un des rendez-vous politiques forts. C'est l'un des derniers qui reste avec une telle régularité. Donc évidemment, ils ont toute leur place. Mais je pense qu'aussi, la parole politique n'épuise pas la totalité de ce qu'il y a à dire sur le réel. Bon, ce qui veut dire inviter des experts, des intellos, des militants, etc. Donc ça, c'est une première définition, c'est d'être généraliste, quoi, et de ne pas considérer que seuls les politiques peuvent s'exprimer le matin sur une antenne. Ensuite, j'essaye, y compris avec les politiques, de ne pas avoir un questionnement qui soit purement d'ordre tactique ou purement de l'ordre des ambitions personnelles. Je n'ai pas d'amour particulier pour la petite phrase qui est souvent le truc qu'on cherche, qui va tourner en boucle toute la journée, faire réagir tout le monde le lendemain. Bon, s'il y a une petite phrase, il y a une petite phrase. S'il n'y en a pas, ça ne m'empêche pas de faire la sieste. Donc voilà. Et ensuite, on a, là je vous réponds, j'ai du mal à définir ce que je suis en particulier, donc je vous réponds par le format. C'est une matinale où il y a plus de temps de parole, ça change la nature de l'interview. Si vous avez 8 minutes pour interviewer quelqu'un, vous procédez de manière totalement différente que si vous en avez 40, ce qui est notre cas. Voilà, donc tout ça, ça fait des différences dans le paysage. Et avec donc cette tentative d'ouvrir un peu les préoccupations pour ne pas rester que dans le franco-français et le politico-politicien.
Tout à l'heure, juste après la chronique d'Eva Bétan, vous avez dit en off, moi je ne suis pas un intello, j'annonce la route et la météo.
Ouais.
Fait aussi partie du métier.
Oui, ça fait partie du métier, oui. Oui. Ça, je connaissais pas France Culture, parce que à France Culture, c'était il y avait pas de point route, et la météo était dans le journal, et c'est le journaliste présentateur du journal qui faisait le deux mots de météo à la fin. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai découvertes ici. Il y avait pas d'auditeur non plus à France Culture, donc c'est une autre forme de radio, mais c'est la vraie vie, quoi, par rapport à France Culture, qui est un petit bijou miraculeux miraculeux. Moi, j'ai travaillé à ouvrir cette antenne, à faire qu'elle soit audible par des gens qui ne soient pas nécessairement surdiplômés, que quelqu'un qui a 17, 18 ans puisse se retrouver sur une matinale comme celle de Culture. Mais là, oui, lancer de la pub, lancer la météo, lancer la route, ça fait partie des plaisirs. Mais c'est un vrai plaisir, hein, des plaisirs de la radio généraliste.
Mais ce travail d'ouverture, ça, c'est peut-être aussi ce qui a fait que vous êtes devenu une icône de France Inter.
C'est-à-dire que je réponds à votre question. Au moment où je suis arrivé à France Inter, il y avait de très très nombreuses rumeurs. J'ai appris ça aussi, ce que je connaissais pas à France Culture. Il y avait très très nombreuses rumeurs sur qui allait avoir la matinale de France Inter. Et donc il y avait des gens très médiatiques, très people, Fogiel, Christophe Ondelat, etc., dont les noms circulaient. C'est le président de Radio France de l'époque, Jean-Paul Cluzel, qui a pris ce risque-là, en fait, qui est de dire on va prendre quelqu'un de la maison qui fait partie du service public, et France Culture, c'est ça, dans sa définition la plus pure, et on va le mettre sur l'antenne généraliste du groupe, quoi. Et ça a été un très très gros travail, puisque la chaîne était en perte d'audience à l'époque. Il y avait une crise de confiance aussi qui était liée à tout le débat sur la Constitution européenne, où France Inter, comme beaucoup d'autres rédactions, avait été accusée de faire la campagne du oui. Donc l'ambiance n'était pas très très bonne, quoi. Et il a fallu reconstruire de A à Z quelque chose. Voilà, et j'y ai participé collectivement, si vous voulez. Ensuite, le paysage des matinaliers, le boulot même de matinalier est un paysage tellement bizarre que vous vous retrouvez en première ligne comme ambassadeur aussi, entre guillemets, de la radio qui vous emploie. Et donc, oui, vous personnifiez les choses. Mais vous l'avez vu ce matin, c'est une énorme équipe qui fait la matinale. Mais au moment où il faut mettre la gueule sur une photo ou sur une affiche, on met la mienne, quoi.
Mais dans le stéréotype, France Inter, c'est la radio plutôt de gauche, plutôt bobo, qui parle aux profs.
Ouais.
Justement, vous étiez un peu l'icône de cette radio. Vous vous retrouvez un peu dans ce portrait ?
France Inter, les études qu'on peut avoir le démontrent. Oui, a effectivement un auditoire. Alors bobo, j'enlève le terme, mais en tout cas, oui, est effectivement beaucoup écouté par les profs. Oui, est majoritairement écouté par des gens de gauche. Ça s'entend dans la tonalité du standard aussi le matin. Les questions, alors quand vous recevez quelqu'un du Parti Socialiste, c'est hey, « Salut François, quand il y a François Hollande, alors moi je suis militant, telle cellule du PS, qu'est-ce que tu penses de la motion 22 ?» Bon, etc. Donc oui, et on sait que nos auditeurs sont comme ça. Pour le reste, le travail est fait de manière impeccable à l'antenne, quoi. C'est-à-dire que c'est une radio qui a cette réputation-là, bien qu'on nous fasse aujourd'hui le reproche inverse, voire la critique inverse, dès lors que le président de Radio France a été nommé par Nicolas Sarkozy. Maintenant, on encourt l'accusation de sarkozisme. Donc, comme on peut pas être et l'un et l'autre, je vous annonce qu'on est ni l'un ni l'autre. Voilà.
Parce que rassurez-nous, Philippe Val n'a pas changé.
Non, il n'a pas changé. Non, non.
Et du coup, quel regard est-ce que vous portez sur le journalisme aujourd'hui, notamment face à l'accusation d'être vendu aux politiques ou alors même aux nouvelles formes de communication qui montent ?
Alors, je pense que de journalistes directement vendus, entre guillemets, ou qui soient ouvertement en train de jouer un double jeu, j'en connais pas ou peu. Je pense que ça, il y a... L'idée de la connivence, elle peut exister, mais elle se joue pas de cette manière-là. C'est plutôt la connivence des gens qui vivent au final dans un monde relativement homogène et socialement homogène, plus que les copains et les coquins qui ont des plans machiavéliques ensemble dans le dos des auditeurs. Voilà, donc l'homogénéité sociale, oui, est un risque. Ensuite, il y a aujourd'hui une telle multiplicité des foyers de production d'informations, Internet, etc., etc. C'est un secteur concurrentiel et en la matière, la concurrence a du bon. Quand il y a un dérapage sur une antenne très directement scandaleux, absolument tout le monde est au courant. Les cas de censure sont rarissimes et ils mettent 3 à 15 jours à sortir sur Internet. Donc, au fond, il faut dégonfler cette idée-là. Mais c'est une idée qui court. sur le monde journalistique. Ce que vous disiez par rapport aux formes de communication, ensuite, ça me semble être beaucoup plus préoccupant. La politique, la culture, bref, enfin tous les secteurs du monde réel sont aujourd'hui des secteurs qui savent communiquer de manière professionnelle et qui savent s'adresser au monde des médias. Donc garder la maîtrise de son propre agenda, dire moi aujourd'hui je traite de tel point de politique étrangère parce que ça me semble important et je résiste aux pressions du milieu au sens très très large, pas des pressions directes mais aux pressions du consensus, aux pressions de la programmation routinière, à toutes les sollicitations que je peux avoir à droite, à gauche, ils vont dire parler de ce livre, il est bien, il sort, parler de ce disque, il est bien, il sort. Bon, voilà, être capable de produire soi-même son propre agenda et d'en garder la maîtrise, ça c'est l'un des combats essentiels du journalisme aujourd'hui.
Mais alors, vous avez une émission politique à la télévision, vous êtes tous les matins à la radio, vous avez aussi une vie privée.
Oui, je confirme.
Ça fait pas trop justement pour prendre le temps du choix ?
Non, parce que, au fil du temps, vous finissez par savoir travailler. Je travaille pas seul, donc que ce soit ici ou que ce soit à la télévision, il y a des rédactions derrière. Donc s'il y a toute une partie du travail que moi je fais seul et qui ne peut se faire que seul parce que sinon vous ne maîtrisez pas les choses, donc s'il y a toute une partie du travail que je continue à faire seul, ensuite c'est du travail collectif. Si vous voulez, du temps j'ai appris à m'organiser, j'ai appris à travailler. Dans un monde idéal, oui, peut-être que si j'avais un mois pour faire une émission, au final, elle serait meilleure. C'est pas sûr, c'est pas certain. Moi, j'ai choisi d'être généraliste et dans des rythmes rapides. Donc, quand j'avais une hebdo sur France Culture, je trépignais en attendant la suivante. C'est pareil à la télé. Quand je sors dimanche soir, je ne vois que les problèmes qu'il y a eu dans l'émission et je me dis « Ah, si je pouvais en avoir une demain, on pourrait les régler », etc., etc. Et là, la radio tous les jours, moi, c'est une forme d'hygiène professionnelle aussi. Hein. Vous êtes dedans jusqu'au cou et voilà, quoi. Et quand on se repose, on se repose. La capacité à réfléchir n'est pas indexée sur le temps de loisir, quoi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous allez abandonner au bout d'un moment, la télé, la radio ?
Moi, je sais en tout cas que la radio, j'aimerais continuer à en faire longtemps parce que c'est mon média de prédilection. La télé, j'aimerais me confronter à l'émission culturelle. Au moins, je l'ai fait une fois il y a longtemps, mais j'aimerais bien maintenant, quelques années plus tard, me mettre devant cette équation a priori impossible qui est d'avoir une émission qui puisse éventuellement donner aux téléspectateurs l'envie de lire ou l'envie d'aller au musée, l'envie d'aller au cinéma. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas d'abandon en race campagne en perspective.
Vous aviez failli le faire il y a quelques temps ?
Oui, j'ai failli le faire, mais bon, ça s'est pas fait. C'est une autre chose qu'on apprend dans ces métiers-là, c'est ce que les autres appellent, Luc Boltanski, F. Schiapello appellent la cité par projet, c'est que oui, c'est un monde qui fonctionne par projet, et le cimetière des projets non aboutis est absolument gigantesque, et les projets qui partent à la poubelle sont évidemment plus nombreux que ceux qui voient le jour.
Et pour finir, donc une question un peu risquée en ce qui nous concerne,
ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de notre interview ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore ?
Il faut apprendre à interrompre. Il faut apprendre à interrompre.
Sauf que les éditeurs en général ont plus envie de vous écouter.
Oui, mais il faut apprendre à interrompre. Il faut apprendre à interrompre, ouais. Mais autrement, non, vous parlez un français correct, ce qui est bien vu votre niveau universitaire. Et je suis vraiment, non, mais ça, je vous le dis pour vous et pour ceux qui écouteront l'émission, je suis vraiment très très heureux de voir que. Il n'y a pas cette espèce de défi, il n'y a pas cette espèce de méfiance quoi à l'égard des médias dans un milieu comme le vôtre quoi aujourd'hui. Mais c'est très difficile. Hein, bon courage à vous, hein, vraiment. Hein, bon courage.
Bah merci, bon courage à vous aussi.
Merci beaucoup. Je vais aller dormir.
Bonne nuit malgré.
Bonne sieste malgré... là. Ça commence toujours par une sieste.
Merci Nicolas Demorand.
Merci à vous.
Nous remercions Nicolas Demorand mille fois de nous avoir reçus et de s'être prêté au jeu pour cette première édition d'Il y a une vie après normale. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
On se retrouve sous peu pour un nouveau numéro de l'émission. D'ici là, restez bien sûr sur Transistor avec notamment un transversal spécial musique classique. Vous parlerez du Messie de Handel et vous écouterez du Vivaldi, comme on l'a fait d'ailleurs dans cette émission. Merci à tous et à bientôt.
À bientôt.